With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
On va parler de Twitter et aussi de Twitter, mais encore d'IA. Et vous inquiétez pas, il y aura des trucs intéressants aussi après, comme par exemple des choses qui se passent dans le domaine du paiement en Inde, des trucs inattendus, et le freemium qui devient le modèle universel. C'est parti pour tout de suite dans le Rendez-vous Tech. C'est parti pour tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez, dites-moi en commentaire et sur Twitter si vous savez ce que ça veut dire. Moi, je suis victime de ces intros complètement faites sur le moment. C'est pas grave, l'émission va être intéressante quand même. Pas parce que moi, je suis là, mais parce que j'ai deux journalistes sérieux pour compenser un petit peu de mon amateurisme. D'une part, de ce côté, on a Leïla Marchand qui nous revient après au moins vachement longtemps, qui est là des Échos. Bonjour Leïla, comment ça va?
Bonjour, ça va? Oui, journaliste aux Échos et depuis 3 mois en charge du secteur informatique et électronique, donc très sérieux, c'est vrai.
Oui.
Voilà, je suis contente d'être avec vous.
Je ne veux pas te mettre la pression, mais tu vas devoir dire des trucs super intelligents. Hein. Donc, j'espère que tu es préparé. On a également Damien Liquita Caruso qui nous vient du Parisien, lui qui est également en charge de la section tech. Bonjour Damien, comment vas-tu?
Bonjour à tous, eh bien tout va bien, hein. On est très content de participer à ce podcast. Donc moi je m'appelle Damien Liquita Caruso et je couvre tous les sujets tech grand public. Donc ça va de l'IA, la cybersécurité, les robots, l'électronique, tout ce qui est un processeur en gros qui fait appel à des algorithmes.
Très bien, merci d'être avec nous. Tu étais déjà venu il y a un certain temps. Tous les deux, ça fait quoi? Plus un an et demi, quelque chose comme ça? Peut-être même plus que vous n'êtes pas venu. Donc, un grand plaisir de vous avoir à nouveau. Et oui, tu parles d'IA, incroyable. Je crois que tu vas nous... On n'en parle jamais hein, depuis quelques mois d'IA dans l'émission. Donc, tu vas nous expliquer ce que c'est. Mais surtout, tu nous teasais avant qu'on lance l'enregistrement un truc inattendu que tu as fait avec l'IA. J'ai très hâte de savoir de quoi il s'agit. Sachez simplement, en petit teasing, qu'il y a du fromage dans cette histoire. N'est-ce pas? Donc, on va voir ce que ça donne.
Ça, on ne fera pas mieux en termes de teasing aujourd'hui.
C'est ça, exactement. L'IA au fromage. Et je crois qu'on a le titre de notre épisode. Parfait. Avant de se lancer dans les sujets principaux, je voudrais remercier très chaleureusement les auditeurs qui soutiennent l'émission. On a aujourd'hui Kamel Moussa, Baking Potatoes, Hugues Chocard, Claude, j'ai ma souris devant le nom, mais c'est bien Claude Lecomte, Maxou, Artichoke, Guillaume Maranès et Guillaume Portier, en plus des producteurs, dont Eric, qui se reconnaîtra, il sait de qui il s'agit lui-même, et Wakatp. Merci à vous tous de soutenir l'émission, les gens qui soutiennent depuis peu, et ceux qui soutiennent depuis longtemps, et ceux qui soutiennent au niveau producteur. C'est grâce à vous que cette émission existe, et c'est grâce à vous que je peux faire ce métier. Donc, un grand, grand merci. Quelques mots avant de se lancer dans les grosses infos de la semaine. D'abord, je pense que dans l'after show, qui est réservé aux Patriotes, justement, on va commencer à faire pour les semaines qui viennent une petite discussion sur l'IA en pratique, où je vous expliquerai comment ça fonctionne de mon côté, l'IA, pourquoi je l'utilise et ce genre de choses, mais vraiment en pratique, parce que dans l'émission, on parle beaucoup de news et il y a beaucoup de gens, je dis souvent aux gens, ah, il faut vous y intéresser, il faut voir comment ça marche, machin. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident de comprendre comment ça fonctionne vraiment, comment s'y mettre. Donc, c'est de ça qu'on parlera dans les after shows pour, je crois, au moins quelques semaines. Donc, voilà, l'after show, c'est l'IA en pratique pour le moment. N'oubliez pas également le sondage. Hein, les notes sont... le sondage des auditeurs 2023... dont je vous parle depuis quelques semaines. Alors, on a presque 1000 personnes qui ont répondu. C'est incroyable. Si vous voulez faire arriver à 1000, vous pouvez répondre aussi. Le lien vers le sondage où je vous pose des questions sur ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas dans les émissions, si vous soutenez, pourquoi pas, etc. C'est dans les notes de l'émission. C'est le sondage de 2023. Et enfin, si vous regardez sur Twitch en particulier, je vais faire Battle for l'événement caritatif du 21 au 23 avril, je vous en ai déjà parlé, et je vais streamer beaucoup pendant ce week-end-là, et il serait sans doute une bonne idée, ça serait sans doute une bonne idée d'avoir des modérateurs. Si vous suivez l'émission de temps en temps, enfin régulièrement on va dire, si vous pensez suivre le week-end de stream, venez sur Discord et dites-moi, ou contactez-moi sur Twitter, dites-moi si vous voudriez être modérateur. Bien sûr, il faut être un régulier, hein, je ne vais pas juste donner le modo, et on en parlera, mais ça serait peut-être pas mal d'avoir des modérateurs. Donc faites-moi signe pour ça, et on va se lancer immédiatement dans les grosses news de la semaine avec premier sujet. Alors, il y a pas mal de Twitter. Je suis désolé par avance, mais c'est important puisque Twitter change encore un petit peu, petit à petit. La toute dernière manière dont c'est en train de changer, c'est ce que j'ai appelé la section Twitter versus les États. Il y aura Twitter versus Substack juste après. Mais Twitter contre les États, c'est qu'une petite collection de news assez liée. D'une part, Elon Musk a décidé que désormais, tous les médias qui avaient un lien quelconque avec les États devaient avoir un label sur leur compte Twitter. Et ils ont commencé avec NPR, la radio, les médias, les téléradios des États-Unis publics, en mettant au départ que c'était un média affilié à l'État, puis ils ont changé pour dire que c'est un média financé par le gouvernement, puis ils ont fait ça pour la BBC aussi. Bref, ils commencent à mettre sur tous les médias le fait à préciser en label le fait qu'ils sont, enfin leur relation avec les États, ce qui pourrait paraître logique, sauf que peut-être qu'il y a un petit astérisque et on va en parler. Il y a également d'autres choses qui se passent à ce niveau, c'est que Twitter a arrêté de limiter la portée des comptes du Kremlin, y compris celui de Poutine. Ils étaient, depuis le début de la guerre en Ukraine, limités dans leur... À vrai dire, ils n'apparaissaient pas dans les recommandations, ils n'étaient pas poussés par l'algorithme. Ça n'est plus le cas. Ils sont maintenant traités comme des médias, comme tous les autres comptes, et ils apparaissent, enfin, on ne sait pas exactement, mais en tout cas, ils apparaissent dans les recommandations de l'algorithme. Il y a également une autre histoire qui contrevient à l'idée de liberté de parole, comme souvent promue par Elon Musk, c'est qu'un journaliste indien a reçu une demande du gouvernement indien, enfin plutôt Twitter a reçu une demande de suppression d'un tweet d'un journaliste indien, et Twitter, au lieu de le supprimer uniquement pour l'Inde, comme ça aurait été le cas par le passé, l'a supprimé dans le monde entier. Donc ça peut être un détail, mais c'est quand même notable. À côté de ça, l'Allemagne a signalé à Twitter qu'ils n'ont pas justement supprimé des contenus illégaux signalés par les utilisateurs, ce qui est contraire à la loi aujourd'hui en Allemagne. Elon Musk a visiblement découvert la chose et il a répondu à un compte parodique de Twitter qui disait qui relayait cette information véridique en disant « Ah, j'en ai jamais entendu parler, d'où est-ce que ça sort? Est-ce que vous avez les détails ?» Et c'était un compte parodique qui était abonné à Twitter, donc il y avait la blue checkmark. Il avait l'air, il répond à tout le monde, hein, mais il avait l'air de ne pas s'être rendu compte que c'était un compte officiel parce qu'il y répondait comme un compte officiel. Bon, on pourra commenter également. Et enfin, une autre note importante dans ce contexte, c'est que les API de Twitter ont été analysées, les nouvelles API de Twitter ont été analysées par des chercheurs qui disent que les nouveaux plans, en fait, ne correspondent pas à leurs besoins pour analyser, peut-être par exemple, l'influence que peuvent avoir des campagnes de désinformation ou ce genre de choses sur le site. Les nouveaux plans ne correspondent pas à leurs besoins. Le plan à 100 dollars par mois est beaucoup moins bon que l'ancien qui était gratuit. Et que, bien sûr, les comptes qui coûtent 40 000 dollars par mois sont trop chers pour leurs besoins. Donc, la recherche risque d'être impactée. C'est un petit résumé de trucs qui semblent peut-être pas tout à fait liés. Mais je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Je vais peut-être me tourner vers Leïla. Moi, évidemment, j'ai un avis assez tranché sur la question. Enfin, évidemment, non, pas forcément. Mais c'est le cas en l'occurrence. Peut-être sur le sujet des médias affiliés aux États ou financés par les États, Est-ce qu'on peut légitimement dire, comprendre la démarche d'Elon Musk qui dit « Oh ben, il n'y a pas de raison ». Ah oui, je ne l'ai pas précisé, mais c'est évident. Auparavant, les médias qui étaient labellisés d'une certaine manière, enfin d'une manière ou d'une autre, comme étant liés à un État, c'était des médias d'État, des médias contrôlés par l'État. Et on parlait notamment et principalement des médias russes et des médias chinois. Donc, pourquoi pas dire que la BBC ou NPR sont financés par les États-Unis, enfin par leurs pays respectifs, Leïla ? Finalement, c'est raisonnable comme décision, non ?
Ça a l'air d'être plutôt une décision politique de la part d'Elon Musk. Enfin, on a l'impression qu'il fait semblant de ne pas comprendre la différence entre médias d'État, médias en partie financés par un État, et que c'est une petite revanche de sa part sur NPR. Enfin, il choisit bien ses combats. Il a visé NPR, il a visé la BBC. On dirait les médias avec qui il n'est pas toujours d'accord, parce que quand on regarde le budget de NPR, ils ont précisé qu'ils recevaient seulement 1% de leur budget, de leur financement auprès du gouvernement américain. Parce que sinon, si on va par là, c'est vrai que toute la presse française, qui est en partie subventionnée, d'ailleurs, on le rappelle, c'est quelque chose que les lecteurs nous rappellent assez souvent dans les commentaires en disant « Vous êtes subventionnés, donc j'ai le droit de lire cet article gratuitement, par exemple. » Ou alors « Vous n'êtes pas indépendant parce que vous êtes subventionné. » J'ai regardé récemment les subventions. Donc d'ailleurs, Damien, ça, tu me diras si tu as les mêmes chiffres, mais j'avais vu plus de 16 millions d'euros de budget pour le groupe Les Échos, Les Parisiens, qui a été donné par l'État en 2021, mais c'est aussi une petite partie seulement, parce que par exemple, le dernier chiffre d'affaires des Échos, juste le journal Les Échos, c'est 90 millions d'euros. Donc est-ce qu'on est, on peut dire qu'on est financé par l'État ou pas ? De même, dans ce cas-là, est-ce qu'il faudrait mettre tous les financements ? Enfin, est-ce qu'on précise sur Twitter, dans le label, à qui appartient chaque... Ça peut être instructif, mais après... Enfin, jusqu'où on va dans le détail de la labellisation, sur à qui appartient quoi, etc. Le débat est ouvert. Ouais.
Ça peut prêter à confusion, Damien. Tu en penses quoi, toi ?
Je pense que c'est quand même une forme de rééquilibrage, parce que pendant des années, RT ou d'autres médias russes étaient vraiment un peu stigmatisés avec cette étiquette, disant qu'ils appartenaient ou ils étaient au moins financés par un État, alors qu'on
l'étiquette
a,
précise,
nous, en France...
c'était médias d'État. Hein. C'était...
Oui, médias d'État. Donc, médias d'État, c'est extrêmement connoté, que ce soit les deux côtés de l'Atlantique. Nous, par exemple, en France, on peut avoir du France 24, du TV5 Monde, qui ont cette vision internationale et qui n'ont pas été étiquetés médias liés à l'État. Alors, tout leur financement vient de ça. Il y a un peu de pub, mais finalement, c'est des dotations de l'Assemblée national, donc c'est un financement entièrement public. On pourrait aussi, et ça pourrait aussi suggérer que derrière il y a une forme d'influence politique, une vision du monde qui fait que ça traduit la politique d'un État à l'international.
Merci Damien de prendre ce rôle-là, enfin que tu penses certainement, mais ça me permet de pas avoir à me faire moi un petit peu l'avocat du diable pour défendre cette idée, parce que c'est vrai que sur le principe, sur le papier, on peut dire, bah oui, il n'y a pas de raison. Finalement, ça rééquilibre. Il y a une mention du fait que c'est des médias affiliés à l'État. Voilà, en français, comment c'est dit, affiliés à l'État russe sur les comptes, par exemple, de Russia Today. Pourquoi ne pas dire la même chose pour les autres ? Ceci dit, ce qui est en principe pour moi une idée qui est de bénigne à bien intentionnée, au final, je crois que c'est plutôt contre-productif pour mâcher mes mots, et je rejoins un petit peu Leïla sur l'analyse, parce que c'est au contraire une idée très politique. C'est-à-dire que la volonté, à mon sens, d'Elon Musk est de brouiller les pistes. Et le fait de dire qu'un média est affilié à un État, communément dans la manière dont on le comprend dans ce contexte, ça veut dire que l'État, en question, contrôle ce que dit le média. Et donc, on implique, c'est pas qu'on insinue, c'est qu'on dit que ce que va transmettre comme information le média, il faut au minimum y mettre un petit grain de sel. Au minimum. Et sur Twitter, c'est le standard depuis des années et des années, justement pour contrôler des questions de désinformation qui font beaucoup de mal au réseau et à la confiance qu'on peut avoir dans l'information sur le réseau. Or, quand Elon Musk applique ce label, qui est un petit peu différent, certes, à des sociétés comme, à des chaînes, à des médias comme BBC ou NPR, d'une part, ce n'est pas tout à fait juste parce que, comme le disait Leïla, NPR est financé essentiellement par les dons des citoyens américains. Donc, ce n'est même pas l'État, ça représente une petite partie du financement de cette société, de ce média, le financement direct par l'État. Même pour la BBC, comme ils l'ont rappelé, c'est financé par une merde, comment ça s'appelle ? Une taxe ? Une redevance.
Oui, c'est ça.
Une redevance, oui.
C'est financé par une redevance que payent, il disait, 70% des citoyens anglais. Et l'intention d'un Elon Musk, c'est de dire, ah ben, vous voyez, on n'est pas sûr, hein. Alors ceux-là, ils sont financés par ça, ceux-là. Mais financés par un État et contrôlés par un État, ce n'est pas du tout la même chose. Alors oui, on peut avoir peut-être quelqu'un qui passe un coup de fil. Voilà, non mais exactement. Mais
des États autoritaires.
C'est exactement là que vient le problème. De là que vient le problème. Et je suis sûr qu'il y a quelqu'un dans un ministère, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis ou en France, qui a dû passer un coup de fil à un directeur des programmes quelque part, à un moment, dire « Oh, tu peux pas laisser dire ça, machin ». Ok, mais on est dans l'exception beaucoup plus que dans la règle, alors que Russia Today, pour prendre encore cet exemple, mais il y en a d'autres, ils prennent leurs ordres du Kremlin. Donc, on ne peut pas faire un équivalent avec les deux, entre les deux, si ce n'est pour vouloir brouiller les pistes. Et la chose que ça m'a évoquée quand j'ai lu ça, c'est un petit peu la même chose que Leïla, et j'ai poussé un petit peu plus loin encore. Si on veut, parce que lui, il disait, c'est pour être juste, pour être exact, il faut avoir les informations. Et encore une fois, sur le principe, pourquoi pas ? Si tout le monde est logé à la même enseigne et qu'on est précis sur tout, pourquoi pas ? Mais dans ce cas-là, on pourrait préciser sur chaque compte de chaque société du monde d'où sont ses intérêts, qui pourrait les influencer. Et au hasard, le compte d'Elon Musk, bah, on pourrait préciser qu'il est également président et propriétaire de la société Tesla, dont une énorme partie du business se fait en Chine et a à voir avec la Chine. Et donc, c'est une question qui se pose depuis qu'il a racheté Twitter. Bah, est-ce que ça n'a pas une influence sur ce qu'il dit et ce qu'il fait ? Franchement, la question se pose tout aussi légitimement et peut-être sans doute beaucoup plus que quand il dit la BBC est financée par l'État anglais. Et du coup, c'est l'intention qui est plus que suspecte pour moi, d'autant plus que dans le même temps, comme par magie, les comptes du Kremlin, on voit leurs limitations complètement levées. Donc moi, ça me dérange vraiment. Leïla, pardon, tu voulais ajouter quelque chose ?
Non, tu as bien tout résumé, c'est ce que je voulais
dire. Damien, est-ce qu'on t'a convaincu qu'en fait, c'est suspect ou non, tu restes...
Absolument, parce qu'il y a quand même... Il faut différencier aussi la chaîne internationale de la chaîne nationale, de l'influence que peut avoir l'une ou l'autre. Et c'est vrai qu'une chaîne comme Russia Today, voilà, qui a une certaine audience, ou une chaîne comme CNN ou comme la BBC, qui ont elles aussi une certaine audience, elles véhiculent quand même des idées politiques. Elles sont quand même associées à des prises de position à travers le monde. Donc, c'est quand même pas pareil. Et c'est quand même aussi une chaîne internationale. Typiquement, France 24, ça a toujours été le cas. C'est aussi du soft power. Donc, c'est quelque chose qui va avoir une influence sur la manière dont pensent les gens. Donc, il faudrait quand même qu'il soit précisé à un moment ou à un autre que c'est quand même le réseau d'influence d'un État.
Je ne suis pas contre l'idée qu'on dise, par exemple, France 24, effectivement, c'est la voix de la France à l'international, c'est tout à fait le cas. CNN, c'est une société privée, hein, donc on est dans un autre registre, même si ça pose la voix de l'Amérique dans le monde, mais c'est du soft power, tu as tout à fait raison de le dire, mais ce n'est pas la même chose que Russia Today, qu'un média contrôlé par l'État. Ce n'est pas la même chose. On n'a pas le président qui appelle le responsable éditorial de France 24 pour lui dire « Maintenant, tu vas plutôt me faire taire cette news. » Et à moins qu'on ne sache pas, mais enfin vraiment... Mais c'est ça qui est frustrant, tu vois, c'est que ça met la confusion. Et peut-être qu'en refondant proprement le système de labellisation des comptes Twitter, on pourrait arriver à un résultat qui clarifie les choses. D'une part, ce n'est pas le cas aujourd'hui. parce que c'est Elon Musk qui dit « Ah bah on va le mettre là, eux on va le mettre là ». Et d'autre part, je pense que ce n'est pas l'intention. C'est Elon Musk qui est… bon, peut-être que… Je me force à dire peut-être que je fais un procès d'intention à Elon Musk, même si vraiment je ne le pense pas. Vas-y, vas-y Damien, on conclut sur le sujet.
Tu ne serais pas le premier à faire un procès d'intention à Elon Musk. Après, lui, il est aussi, il est aussi bloqué entre sa perspective à lui, qui est quand même de faire de l'argent à un moment ou à un autre, donc de créer de l'audience, de créer de la controverse, d'alimenter son réseau social. Mais aussi, il défend le principe, si on va au bout de sa philosophie, du premier amendement, de la liberté d'expression totale. Et il faut, dans ce cas-là, ouvrir l'expression à tout le monde. C'est-à-dire que même les comptes du Kremlin, elles devraient avoir le même reach que les autres comptes de NPR ou d'autres médias. Si on veut mettre tout le monde sur le même plan, il faut faire sauter les verrous qu'il y a pu avoir depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine.
Bienvenue en quoi, 2010, 2013, 2014, quand c'était exactement la philosophie d'Internet. Tout le monde est libre de dire tout ce qu'on veut et tout se passe bien parce que tout le monde a la liberté de parole. C'est exactement ce qu'on dit depuis le début de cette histoire de rachat. C'est l'idée qu'il défend, qui, en tout cas jusqu'à maintenant, n'a jamais fonctionné à mon sens et n'a jamais créé autre chose que plus de chaos et plus de confusion. Et c'est pour ça que Twitter, après 10 ans d'existence, et Twitter, tous les réseaux sociaux du monde sont arrivés à la conclusion que, bah oui, il faut quand même un minimum d'éditorial. Parce que sinon, on favorise le chaos et la désinformation. Mais peut-être que Elon Musk va créer une IA qui pourra faire ça proprement, et bien, j'avoue que je ne suis pas hyper optimiste. Encore Elon Musk, je dis Twitter versus Substack, mais c'est Elon Musk versus les gens de chez Substack. Qu'est-ce que c'est Substack ? C'est un service de newsletter et de newsletter payant dont vous avez peut-être entendu parler, peut-être même sans le savoir, puisqu'il a beaucoup de succès depuis quelques années. Il y a beaucoup de journalistes qui ont lancé leur Substack, qui est une newsletter et qui génère des revenus parfois importants avec les abonnements à leur newsletter. Substack a décidé et a annoncé officiellement un truc qui était une rumeur qui traînait depuis un moment, qui est la fonctionnalité Notes, donc les notes, qui est en gros un Twitter-like. En gros, Substack est une société qui va essayer de concurrencer Twitter avec une nouvelle fonctionnalité au sein de leur service. Évidemment, ça n'a pas plu à Elon Musk, qui s'est mis à modifier la manière dont Substack est traité sur Twitter. À un moment, on avait une restriction qui faisait que dans n'importe quel tweet dans lequel était présent un lien vers une page Substack, eh bien, il était impossible de le retweeter ou de le liker. Bon, ok, traitement de faveur. Je vous rappelle que la liberté d'expression, c'est super, il faut laisser tout le monde dire tout ce qu'on veut. Ok, ça, on laisse tout le monde dire tout ce qu'on veut jusqu'à ce que ça nous dérange, hein, généralement chez ce genre de personnes. Après ça, finalement, ils ont dit « Ok, c'est... » Ah non, ils ont rajouté un autre truc qui est que quand on voulait cliquer sur le lien en question, eh bien, ça nous mettait vers une page intermédiaire qui disait « Attention, Twitter ou nos partenaires ont identifié ce lien comme étant possiblement du spam ou possiblement pas sécurisé. Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez y aller ?» Évidemment, levée de bouclier, outrage. Et du coup, ce qui s'est passé finalement, c'est que il a supprimé toutes ces choses-là. Il y a eu un échange de tweets, Elon Musk disant que Substack avait essayé de télécharger une énorme partie de Twitter pour créer leur clone de Twitter. Franchement, des deux, j'aurais tendance à ne pas croire Elon Musk, mais bon. Et finalement, Twitter a supprimé ses blocages, donc il est désormais possible de tweeter ou liker les liens de Substack. Mais quand on cherche Substack dans Twitter, désormais, on a quasiment plus de résultats de recherche. Et donc, Substack est un petit peu shadow-banné, comme d'ailleurs Matt Taibbi, qui est un auteur assez controversé d'extrême droite américaine, qui fait sa vie sur Substack, qui a été associé à Substack et qui avait eu la préférence d'Elon Musk parce que quand il avait sorti les Twitter Files, c'était l'un des premiers qui avait sorti les Twitter Files, ils se sont engueulés Et maintenant, Matt Taibbi est visiblement shadowbanné sur Twitter. C'est-à-dire que quand on cherche son nom dans Twitter, eh ben, on n'a pas de résultat. Bon, ça a l'air de rien. Comme ça, on se dit, mais on s'en fout de Substack. Ils font un clone de Twitter. Est-ce que ce n'est pas, là encore, justifié que Elon Musk les traite de cette manière ? Je vous pose la question à nouveau. On va commencer par Damien, peut-être maintenant. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire de Substack contre Elon Musk, contre Twitter ? C'est justifié la manière dont il s'est comporté ou pas du tout ? Qu'est-ce que tu penses ?
Il y a du sang dans l'eau en ce moment autour de Twitter. Et voilà, Twitter n'a jamais été aussi vulnérable depuis qu'il a été racheté par Elon Musk. Il y a des problèmes de panne, il y a des problèmes de gens qui ont quitté le réseau, qui sont rabattus peut-être sur des alternatives, mais il n'y a pas une vraie alternative qui est sortie du lot pour l'instant. Donc il se dit peut-être Substack, c'est peut-être le moment d'aller attaquer ce que peut faire de mieux Twitter, d'essayer de récupérer cette part d'utilisateurs déçus. Donc forcément, ça crée des tensions entre deux entités qui ne se concurrençaient pas pendant très longtemps et qui maintenant commencent à marcher sur les plates-bandes l'un et l'autre. Donc c'est un peu logique aussi. Après, il va prendre le premier argument qui lui tombe sur la main et qui est « voilà, vous nous avez copié, vous êtes en train d'essayer de faire la même chose que nous ». Vous n'y arriverez pas. Moi, Twitter, je vais le redresser. Vous allez voir. Enfin, il y a aussi une question d'ego qui rentre dans tout ça. Et ça, c'est Elon Musk. Et on est parti pour des émissions et des feuilletons pour toutes les... Ah, c'est Elon Musk, quoi. On va en avoir jusqu'au bout, du bout, du bout. On en aura pour notre argent.
Mais j'insiste sur le principe de ces décisions de bloquer un réseau en particulier. Alors, bien sûr, techniquement, il en a le droit. Hein, et c'est Twitter et son réseau. Il fait absolument ce qu'il veut. Mais ça te gêne pas comme manière de faire les choses ?
C'est-à-dire qu'éliminer la concurrence, en fait, c'est la faire disparaître des radars, c'est lui offrir absolument zéro visibilité pour quelqu'un qui prône une liberté totale et absolue d'expression et qui est dans la diversité, qui a voulu ouvrir Twitter, qui était apparemment pris en otage par les woke et par des gens... qui correspondait pas à sa mentalité, je trouve ça un peu déroutant quand même, qu'il ait fait le choix d'aller directement vers la guillotine plutôt qu'essayer d'arrondir les angles avec Substack.
Entre parenthèses, les recherches sur Matt Taibbi ont été réactivées, donc ça n'a pas duré très longtemps encore une fois. On saura peut-être le fin mot de cette histoire à un moment. Leïla, est-ce que tu es alignée avec Damien finalement Bon, c'est... Enfin, je ne mets pas de mots dans sa bouche, je n'interprète pas sa parole. Qu'est-ce que tu en penses, toi ?
Je le rejoignais tout à fait sur le fait que Twitter est dans une période vulnérable en ce moment parce que on dirait qu'Elon Musk est en train de détruire un peu tout ce qu'il faisait Twitter. Alors déjà le nom, j'ai vu qu'il voulait changer le nom, il a enlevé le W sur la façade pour que ça fasse Twitter. Il a changé le logo pour un Shiba Inu, il a changé la longueur des messages, il est en train d'essayer de changer la philosophie globale, enfin c'est plus le même réseau d'influence qu'avant.
Sur la question de Twitter, je vais juste expliquer pour les gens qui n'ont pas suivi ou qui comprennent pas. Twitter, c'est un peu tite, genre saint, les saints.
Et en même temps, ça veut dire
une blague. Oui.
Et en même temps, ça veut dire gloussement, c'est ça, enfin Twitter.
Oui. Possiblement. Je t'avoue que sur cette interprétation, je suis moins familier, mais il a aussi changé son nom en Harry Bowles, qui est aussi une crypto-monnaie et qui est une sorte de jeu de mots avec couilles poilues. Je sais pas. Bon, c'est Elon Musk.
Oui.
À la limite, ça, c'est frustrant, mais anecdotique. Je te laisse finir.
C'est anecdotique, mais en même temps, on voit que donc, derrière toutes les décisions qui sont prises, c'est vraiment Elon Musk qui est derrière tout. Enfin, c'est vraiment le dieu tout-puissant de Twitter en ce moment, depuis qu'il a repris la main. Et donc, alors qu'il disait lui-même qu'il était contre le shadow banning qu'avait mis en place Twitter discrètement, il disait avant qu'il reprenne la main, lui-même le met en place quand ça l'arrange. Et on voit toutes ces contradictions dans les décisions qu'il prend. Et le fait que ce soit toutefois remplacé progressivement, ça fait un peu penser au bateau de Thésée, enfin le, l'idée philosophique du bateau de Thésée, tout est changé progressivement. Est-ce qu'on est, toujours, enfin, est-ce qu'on parle toujours de Twitter ou est-ce que progressivement on va se diriger vers autre chose? Lui, il veut créer une nouvelle application, il l'a dit, qui s'appellera la Super App X. Donc on va vers là en tout cas.
C'est ça qui me, enfin ce que tu disais qui me dérange finalement avec tout ça, parce que si l'intention était, si il avait dit moi je suis pour la liberté de parole absolue, je suis un free speech absolutiste, pourquoi pas ? Je veux dire, je suis pas d'accord avec l'idée, je pense qu'elle est plus néfaste que positive, et on l'a vu au cours des 10 dernières années ou 15 dernières années sur Internet, mais pourquoi pas ? Au moins il y aurait une sincérité philosophique là-dedans. Une conviction. Mais ce qu'on voit comme souvent, je l'ai remarqué de mon expérience personnelle avec des gens qui disent ce genre de choses, c'est que ce n'est pas une vraie sincérité, une vraie conviction, c'est plus un outil pour pouvoir faire ce qu'ils veulent, et dès que ça ne les arrange plus, bon bah, tout à coup, free speech, absolutisme, ça, on le met un petit peu de côté et on fait ce qu'on veut nous parce qu'on est un peu énervé ou frustré ou ce que c'est. Donc c'est ça qui met un goût vraiment difficile à avaler dans toutes ces histoires, à mon sens. Tu évoquais X, la société X Holdings. Alors, il a dit, je veux faire une super app avec Twitter, et ça sera la société X, donc enfin, la super app X dont je parle depuis longtemps. X Holdings, qui est une société de holdings qui est au Nevada, c'est ça ? L'État américain où on paye moins d'impôts, un truc comme ça. C'est ça, hein ?
Oui, c'est ça, oui. C'est là aussi, ils fabriquent ces Tesla, non, je crois.
Texas ? Ouais.
Ah oui,
c'est ça. Alors, il y a Delaware, une partie au Texas. Y a une... Oui, vas-y, Damien. C'est peut-être Delaware, on me dit dans la chatroom Delaware. Merci, Guillaume, c'est le Delaware.
C'est Delaware, généralement. C'est ça. Pour tout ce qui est des raisons fiscales, c'est mieux là-bas. Et c'est plus simple, apparemment, de s'enregistrer aussi. Voilà.
C'est ça. Mais donc, la société Twitter elle-même n'existe plus. Elle a été rachetée par X Holdings, c'est deux ou trois. Enfin, il y en avait trois qui s'occupent de différentes parties de la boîte. Elle a été rachetée, donc la société Twitter n'existe plus en elle-même. C'est un petit peu anecdotique, si ce n'est que ça nous permet de rementionner le fait que la super app qu'il veut créer, qu'est-ce que c'est qu'une super app ? C'est un truc comme WeChat ou Line, qui ont beaucoup de succès en Asie, qui sont en fait une app dans laquelle on peut tout faire. C'est-à-dire qu'il y a évidemment un réseau de communication et de messages privés, de communication plus publique à la Twitter, mais aussi des moyens de paiement, des moyens de suivre l'actualité des différentes publications, etc., etc. Il y a des grosses questions sur est-ce que l'Occident est prêt à adopter ce type d'app ? Peut-être, peut-être pas. Bon, on verra ce que ça donne à terme. Moi, j'imagine là plus une question fiscale dans cette opération, mais peut-être que c'est le chemin pour créer la super app. Bon, on verra. On a trop peu d'infos pour juger à ce stade. Bon, je crois qu'on a fait le tour de l'actualité de Twitter aujourd'hui. Si, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur Twitter ou on avance ? Vous décidez. Silence.
Moi, pour parler de l'énième panne qu'ils ont encore subie ces derniers jours, voilà, c'est toujours on est encore dans une phase de bricolage, on a l'impression, c'est vrai que l'extérieur, on se dit, il manque quand même quelqu'un pour driver tout ça, et surtout, on a l'impression qu'il y a un problème. À chaque fois qu'il y a une toute petite panne, elle prend des telles proportions qu'ils se sentent un petit peu ensevelis sur la tâche qui... Voilà, et qu'ils ont un sentiment de panique. Ça sent pas la sérénité, en fait, chez Twitter en ce moment.
Bah, il manque 3000 personnes, en fait.
Bah, je suis convaincu que pour cette histoire de suppression de contenu en Allemagne, c'est simplement ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus les gens qui étaient censés s'occuper de ce genre de choses. Est-ce que, du coup, ça me permet de poser une question, est-ce que vous pensez, peut-être Damien, puisque tu amènes ce sujet, est-ce que tu penses que c'est des petits soucis qui sont réglés au jour le jour et que c'est pas si grave que ça ? Ou est-ce que tu penses que c'est un signe de plus, c'est la sixième panne en deux mois ou quelque chose comme ça, ou que c'est vraiment le signe d'un problème plus grave qui pointe à l'horizon ?
Ils ont rafistolé la tuyauterie, puis là ils se rendent compte qu'il faut tout changer d'un coup, et du coup ils sont obligés de transférer des équipes sur ça, Et ceux qui, à l'origine, étaient capables de prendre en main des réparations très rapides, et bah, ils ont été délégués à un autre projet. Donc, c'est une question d'équilibre de RH. Et, voilà, et que nous, on le voit du monde extérieur parce que ça a de grosses incidences. Dès qu'il y a un tout petit truc, ça prend une telle proportion. Il y a un problème d'effectif, clairement.
Moi, je pense qu'il y a effectivement un problème d'effectif, mais pour le coup, vous ne m'entendrez pas dire ça souvent, je pense que pour Twitter, c'est un petit peu... Le problème est surévalué par beaucoup de gens, parce qu'on dit que Twitter, avec ses effectifs actuels, ne va pas tenir plus de quelques jours, puis plus de quelques semaines, depuis des mois. Et en pratique, je pense que bah, ça tient. Alors peut-être que ça s'accumule en back-end et qu'on ne le voit pas et qu'un jour tout va être cassé pour de bon. J'ai l'impression, moi, qu'ils tiennent le truc tant bien que mal. Et je ne vois pas, en tout cas dans à court terme, Twitter techniquement se casser la gueule malgré ce qu'on disait il y a, il y a 2 mois de ça quand on a commencé à avoir des rapports alarmistes d'anciens employés qui disent « Ah, mais tu te rends pas compte, Twitter, c'est tellement délicat, si tu touches à un morceau, tout s'écroule, machin, dans 2 semaines, Twitter n'existe plus. » Bon, force est de constater que là, ça marche encore, même si effectivement, on est revenu à des périodes dont seuls les plus anciens se souviennent. Si je vous dis « fail whale », vous savez de quoi je parle ou pas ? Si vous savez, ça vous rappellera des souvenirs. Fail whale, c'était à l'époque du lancement de Twitter, dans les début 2010. Un petit peu avant. Non, c'était quand 2009. Il y avait des fail whales tout le temps. C'est quand le service ne tenait pas, et ben, il y avait la baleine qui s'affichait et rien d'autre. Et c'était la fail whale. Et toutes les 2 semaines, il y avait « Oh mon Dieu, la fail whale, Twitter est down, qu'est-ce qu'on fait ? On est obligé d'aller sur Facebook ?» Non, surtout pas ça. C'était marrant. Écoutez, on va passer à la partie suivante, non sans faire une petite pause pour vous parler de Patreon. Patreon, vous savez ce que c'est le moyen de soutenir cette émission. Si je devais avoir un label sur Twitter, ça serait cette émission où cet homme est financé par ses auditeurs. Et je pense que c'est le plus beau des labels qu'on puisse avoir. D'ailleurs, j'aimerais envoyer une demande à Elon Musk pour qu'il me l'applique quoi qu'il arrive, puisque c'est grâce à vous que cette émission existe, et c'est grâce à vous que je peux continuer à vous informer toutes les semaines sur l'actualité tech, l'actualité gaming également. Et si vous voulez faire partie des formidables auditeurs qui deviennent patriotes, c'est une transformation entièrement bénéficiaire. Bon, vous comprenez ce que je veux dire, ça veut dire que ça vous améliore complètement des pieds à la tête et dans la tête et dans l'esprit. Vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech, vous sélectionnez le montant que vous voulez attribuer à un épisode et vous êtes débité très simplement à la fin du mois. Il y a plein de créateurs d'ailleurs sur Patreon, donc je vous encourage à aller jeter un coup d'œil sur le site par principe et aussi peut-être créer un compte et venir me soutenir et en soutenir d'autres potentiellement. Vous pouvez aller donc sur patreon.com/rdvtech et regardez, en plus du fait de me soutenir, tous les bonus incroyables qui seront à votre disposition. Des trucs vraiment totalement fous, comme par exemple les after-shows. On va parler aujourd'hui d'IA en pratique, comme je le disais tout à l'heure. Et il y a plein de bonus sympathiques, comme la newsletter avec une petite partie étendue, etc., etc. Mais surtout, comme je le disais, 2 choses. Le fait de soutenir un créateur que vous appréciez, qui n'a pas de financement de l'État, ni d'autres types de financement. Oh, il y a un petit peu de pub de temps en temps, mais enfin, ça, c'est un petit peu moins éclatant qu'il y a quelque temps. Et surtout, le fait que, comme je vous le disais, ça rend votre vie complètement, scientifiquement, 12% meilleure. C'est des scientifiques réputés qui ont établi cette donnée inaliénable, 12% de vie améliorée en soutenant le Rendez-vous Tech. Écoutez, moi, je pense que c'est plutôt une affaire. Donc, je vous laisse aller voir sur patreon.com/rdvtech.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Et on enchaîne avec le reste de l'actualité. Et des sujets un petit peu plus rapides et pas moins intéressants, comme par exemple un petit journal de l'IA, c'est comme ça que je l'appelle désormais, le journal de l'IA qu'on parle d'IA. Il y a plusieurs choses intéressantes qui ont été, qui sont sorties, hein, comme toutes les semaines, dans le domaine de l'IA. Un truc que j'ai mis dans la newsletter de la semaine dernière, d'ailleurs, c'est une vidéo très impressionnante d'un développeur qui s'appelle Wyatt... Oula, je vais supprimer son volume. Qui a redéveloppé Flappy Bird avec ChatGPT sans coder une seule ligne. Alors, il l'a guidé, hein, il est développeur. C'est un développeur qui est sur l'équipe de Diablo chez Blizzard, game director. Enfin, il connaît son boulot, mais il n'a pas codé une seule ligne. Et ça lui a donné, à la fin, un truc sommaire avec, en utilisant le programme, les codes de ChatGPT, qui a donné un véritable Flappy Bird, un clone, pas super incroyable, mais qui fonctionne sans écrire une seule ligne de code. Il y a d'autres choses, hein. J'ai vu aussi la chanson, je ne vais pas vous la jouer, mais il y a la chanson chantée par Jay-Z, qui n'est pas Jay-Z. Je vous montrais la semaine dernière un clone de ma voix en anglais qui marchait pas mal. Bah là, il y a une chanson qui a été créé avec la voix de Jay-Z sans qu'il chante une seule parole. Et il y a un autre truc hyper intéressant qui est Bloomberg GPT. Qu'est-ce que c'est que Bloomberg GPT ? C'est, à mon sens, un exemple d'une tendance qu'on va voir de plus en plus ces prochains mois. C'est les intelligences artificielles, les large language models qui sont entraînés sur des sets de données très spécialisés, moins nombreux que pour les trucs généraux comme ChatGPT classique, mais qui sont extrêmement précis, beaucoup plus précis que cela, sur ce type de données. Alors Bloomberg, c'est évidemment des données financières qui a été entraîné. Ils ont entraîné un modèle avec 50 millions de données. Alors, c'est beaucoup moins que ChatGPT. Mais du coup, c'est uniquement, je crois, pour 50% leurs données propriétaires à Bloomberg. Ils connaissent ce genre de choses. Et 50% de données plus accessibles. Mais du coup, ça donne des résultats qui sont extrêmement probants pour l'analyse et tout ce qu'on peut faire avec des données financières, avec une IA, beaucoup plus probants qu'un modèle plus général. Et on voit ce genre de tendance un petit peu partout. On peut parler de ça. Avant, je voudrais quand même avoir plus de précision sur cette histoire de dégustation de fromage, Damien, qu'une IA a créée. De quoi s'agit-il ?
Je ne peux pas vous donner trop de détails exactement, mais je peux juste vous dire que d'ici quelques temps, fin 2024, en gros, on pourra manger du fromage végétal, j'insiste bien sur cet adjectif-là, végétal, qui a été créé par une IA, en fait par plusieurs IA. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une start-up californienne qui a créé plusieurs modèles d'intelligence artificielle en utilisant le deep learning, mais aussi l'IA générative, pour reproduire la texture, le goût, mais aussi vraiment la consistance, le côté moelleux, le côté aussi élastique de certains fromages. Et ils ont réussi à recréer ça en théorie en laboratoire, la recette, puis ensuite ils l'ont recréé en vrai. Ils ont utilisé différentes plantes, des graines, dont ils nous donneront évidemment pas la recette et la composition, voilà, pour recréer un fromage. Et j'ai eu la chance de les essayer ce matin. Donc j'ai goûté du bleu qui avait vraiment
ah
le
oui,
goût
vraiment,
bleu.
C'est du vrai.
Qui reproduisait même les veines, parce que les veines, c'est lié aussi à un champignon. Et ben ils ont réussi à reproduire le champignon, en l'occurrence, qui fait devenir le fromage bleu. Ils ont réussi en fait à tout recréer, les protéines végétales évidemment, qui correspondent aux mêmes protéines qu'on peut trouver dans du lait. Et c'était assez impressionnant, le goût est similaire, la texture pareil. Et ça va être extrêmement difficile de reconnaître. C'est un peu comme les photos générées par l'IA. C'est dur à un moment de repérer ce qui est du fromage végétal, ce qui est du vrai fromage vraiment AOC qu'on peut connaître de la filière laitière.
Vraiment ? C'est-à-dire que, attends, même sur le goût, tu as été convaincu ?
J'avais déjà eu cette expérience quand j'avais goûté de la viande créée en laboratoire. Voilà, on en pense qu'on en veut. Mais ce fromage-là a déjà plus de chances d'être accepté parce qu'il n'est pas directement créé en laboratoire et on retrouve exactement le même goût, la même texture.
Ah oui.
Moi, je ne suis pas un très grand fan de fromage pourtant, mais c'est vrai qu'on
ferme les yeux. C'est pour ça que tu as été satisfait du coup. Pas...
Non, quand même. J'aime bien certains fromages, mais pour le coup, le bleu, vraiment le goût de bleu. Et ça, le bleu, j'aime bien. Et voilà, c'était un vrai goût de Roquefort. Ils avaient reproduit ça à partir de plantes.
D'accord. Effectivement, l'IA n'a pas de limite. C'est intéressant de voir ce type d'application. Personnellement, j'ai un problème avec les produits laitiers et donc ça m'intéresse beaucoup ce que tu me racontes là.
Oui, c'est une très bonne alternative, pas de lactose. On se retrouve avec les mêmes protéines qu'on peut avoir dans un produit laitier. Ils ont même réussi, ils nous ont montré comment ils avaient réussi à recréer une mozzarella. La mozzarella, c'est un des plus compliqués à créer parce que en fait il y a ce côté onctueux, l'élasticité, et ben ils ont réussi à le recréer. Ils ont même réussi à recréer la couleur en fait qu'on met sur une pizza de la mozzarella, elle va brunir et cette couleur là en fait vient du lactose. Et ben ils ont réussi à recréer une molécule qui ferait que cette mozzarella végétale va elle aussi brunir sur la pizza.
Oh là 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 là. Alors là, tu parles à mon cœur qui, à chaque fois que je mange du fromage, ça me pose de gros problèmes. Et oui, d'accord, très bien. Écoute, je suis partant. Mais du coup, c'est une application, comme je le disais, il y en a beaucoup d'autres. Et le domaine qui m'intéresse particulièrement depuis quelques jours, quelques semaines, c'est LLM avec des sets de données très spécialisés comme Bloomberg GPT. Parce que là, j'imagine que c'est une IA, mais une IA qui a étudié la composition des trucs et qui a réappliqué. C'est un petit peu différent des chats GPT et Midjourney. Les modèles ultra spécialisés, on commence à en voir un petit peu. J'ai l'impression que c'est là qu'on va... vers ça qu'on va se diriger. Leïla, t'en as entendu un petit peu parler de ce type de modèle-là ? Est-ce que ça peut vraiment proposer quelque chose de... Alors, on y va au doigt mouillé, hein, comme tout le monde sur l'IA, mais est-ce que ça peut proposer quelque chose de convaincant ? Ou est-ce que, ChatGPT va réussir à devenir de plus en plus spécialisé, mais dans tous les domaines en même temps ? Comment tu vois évoluer ces outils basés sur IA dans les différents domaines d'application concrets ?
Je trouve que c'est vraiment prometteur le côté IA spécialisé. Bah, Bloomberg, c'est typiquement vraiment le bon exemple parce que ça permet d'avoir des données plus sûres, enfin d'entraîner l'IA sur des données que l'on maîtrise. Enfin, par exemple, Bloomberg lui a soumis toute sa base de données financières et donc de faire des usages, enfin l'appliquer à des usages particuliers de manière plus pertinente. Enfin, ils ont comparé les résultats de Bloomberg GPT avec ChatGPT justement et avec d'autres LLM et Bloomberg sur les applications financières, Bloomberg GPT s'avérait plus pertinent. Et puis c'est pas du tout étonnant que ce soit le cas. Et je pense aussi qu'au niveau modèle économique, ce sera aussi plus pertinent. Enfin, ça permettra. Enfin, je sais que l'entreprise française Lighton, qui est aussi spécialisée dans les LLM, qui a elle son projet, c'est justement de proposer des intelligences artificielles spécialisées aux entreprises. Donc, par exemple, quand on les a rencontrés, ils nous ont dit, par exemple, pour les échos, on pourrait scanner. Enfin, on pourrait analyser, traiter toute votre base de données, vos archives, et entraîner un chatbot sur cette base de données pour, par exemple, faire remonter plus facilement des documents dans votre base documentaire ou suggérer des idées de titres, des choses comme ça. Et eux, ils veulent vendre ce type de service. Pour ça, c'est prometteur, ouais.
Je crois que ça pallie un autre désavantage des modèles de langage qu'on connaît aujourd'hui, qui est celui de la confidentialité. Parce que si on peut faire développer un modèle... Ouais. Il est là.
Oui, exact. Oui, je suis tout à fait d'accord.
C'est ça. On a vu d'ailleurs des gens dire attention avec ChatGPT parce qu'il intègre vos réponses et puis il peut les ressortir à quelqu'un d'autre plus tard. Donc, n'utilisez pas vos données les plus privées pour ça. Mais effectivement, du coup, ce type de modèle a des avantages absolument indéniables. Et en plus d'être plus précis sur certains domaines, comme c'est le cas de Bloomberg GPT, on a l'avantage de, si on fait entraîner un truc pour notre boîte, et c'est possible aujourd'hui, on a des exemples avec les modèles qui sont dispo en open source, qui tournent sur des machines très modestes, on peut entraîner sur une machine, sur un PC normal, alors avec une grosse carte graphique, mais quand même, et puis on peut ensuite le faire tourner sur une machine complètement normale, donc oui, c'est possible et ça va arriver. Mais d'ailleurs, il y a sur la question des données privées une autre question qui se pose. Après le bannissement de ChatGPT en Italie, il y a des discussions des demandes qui ont été faites sur l'interdiction de ChatGPT en France. Bon, ça semble être pas vraiment réaliste à ce stade, mais la manière dont les données sont traitées par les IA sont quelque chose d'important et une question qu'on commence à se poser, heureusement. Et il y a un papier assez intéressant dans Wired qui fait écho aux appels à bannir les IA et qui dit, écoutez, arrêter les IA, bannir les IA, mettre des pauses dans les IA, c'est pas vraiment crédible. Ce qu'il faudrait plutôt, c'est pousser cette industrie à avoir plus de transparence et plus de accountability. En français. Est-ce que j'ai une IA pour m'aider là ? Une IA pour me dire ce que c'est que accountability en français, qu'on puisse leur demander des comptes. Il y a un mot que je ne retrouve pas. Vous voyez, bot Patrick, il n'aurait pas.
Responsabilité.
Voilà, merci Leïla. Et merci la chatroom. Responsabilité, qu'ils soient responsables de leurs agissements. Et peut-être que bot Patrick aurait été plus responsable dans sa traduction. Mais donc voilà, et aux audits, etc., etc. Moi, je pense que c'est une voie beaucoup plus importante et réaliste même que de se dire on va tout arrêter et ce genre d'idée de pause. Le fait qu'il soit responsable est beaucoup plus important à mon sens. Entre parenthèses... Facebook est sorti du bois pour dire « Si, on aura des trucs créés par IA bientôt, là, en 2023, ça va arriver, on n'est pas du tout pris de court, on arrive. » Bon, c'est pas surprenant, mais là où c'est intéressant, c'est que Facebook était vraiment à la pointe de l'IA dans le domaine de la recherche pendant des années et des années. Et peut-être, pour se concentrer sur le métavers, ils ont délaissé un petit peu ça ou délaissé la mise en application. Mais pas d'inquiétude, ça arrive, donc ça arrivera sur Facebook également. Et avec toutes les données qu'ils ont sur vous sur Facebook, je pense que ça pourrait être effectivement...
Exactement ça.
Oui, vas-y.
On disait, Facebook, c'est bien... Il y a deux grandes entités qui peuvent se permettre de faire de la recherche sur le moyen et long terme avec de l'IA. C'est parce qu'elles ont des grandes bases de données et c'est Google et c'est vraiment Facebook aussi qui elle, a des données un petit peu plus raffinées qui permettent d'entraîner d'autres modèles d'IA et on va aller vers... Nous, j'avais rencontré par exemple Yann Lequin qui est présenté un peu comme le pape de l'IA moderne et qui disait que... Qui travaille chez Facebook, tout à fait, qui est le chef de l'intelligence artificielle là-bas, et qui disait qu'ils avaient beaucoup de données qu'on aurait pu leur fournir toutes ces années. Mais ce qui l'intéressait, c'était vraiment les données raffinées. C'était pas uniquement savoir si on aimait plus le chocolat ou ce genre de choses, c'est qu'on avait différentes patterns qui faisaient qu'on pouvait reconnaître une personne. Et c'était ça qui était le plus intéressant. Les données personnelles en elles-mêmes, les vôtres et les miennes, elles n'intéressent pas. C'est l'agglomérat en fait qui permet d'avoir des grosses tendances et ils sont en train de travailler avec ça. Et les pauvres chercheurs de chez Facebook qui ont dû se prendre un petit coup de semonce Voilà. Il a dit, bon, bah, vous arrêtez ce projet-là. Ça a dû chauffer, quoi.
Ouais. On veut des bots avec lesquels on peut parler, s'il vous plaît. Et on peut leur poser des questions bizarres et leur faire dire des choses qu'ils ne sont pas censés dire. Allez, hop, au boulot. D'ailleurs, j'ai fait sur Twitter une photo. Enfin, une photo, c'est pas une photo, c'est un truc qui n'existe pas, d'un jeune homme. Et j'ai demandé aux gens, si je vous montre cette photo, est-ce que vous pensez comme ça naturellement qu'elle est vraie ou pas ? Et j'ai posé la question dans un sondage. 57% ont dit qu'ils auraient cru qu'elle était vraie. 14%, 15% ont dit j'aurais vu que c'était de l'IA. Et le plus inquiétant, finalement, 27,8%. On dit maintenant je me méfie de tout de toute façon, donc IA, pas IA, j'en sais rien, je me méfie. Et c'est vrai que quand on regarde très précisément, on peut peut-être se rendre compte que, alors il y a un petit peu le style de Midjourney parce que c'est prévu pour, disons qu'on commence à s'habituer à ce genre de choses. Il y a une poche qui est un peu bizarrement foutue, il y a des boutons machin, la peau est très lisse, mais faut vraiment regarder de très très près pour le comprendre.
Marge de progression. Ce qui est encore le plus effrayant, c'est que, voilà, pour l'instant, on arrive à repérer sur certains détails, mais plus on connaît les détails, et plus ils vont essayer de les gommer, et d'ici peut-être 2 ans, on aura des images absolument parfaites.
J'irais même jusqu'à dire que le prompt que j'ai fait est fait pour faire un certain style, et je pense qu'il serait possible de raffiner déjà avec les outils actuels le prompt, la demande, pour que ces éléments-là soient moins facilement repérables. Et puis, à vrai dire, que ce soit repérable ou pas, au bout d'un moment, comme je le disais tout à l'heure et dans les épisodes précédents, si on cherche à semer le chaos, bah, le fait de faire dire aux gens bon, bah, « de toute façon, je me méfie de tout aujourd'hui », c'est le but est atteint, quoi. Et comme je le dis souvent, du coup, bah, le travail des journalistes est encore plus important et encore plus difficile peut-être. Donc Leïla et Damien, bon courage. Les années à venir vont être rigolotes pour vous. Moi, je suis là, je suis derrière mon micro, je commente et je rigole, donc ça va. Mais vous...
Je pense qu'on ne pourra pas compter sur un... Enfin, de plus en plus, ce sera difficile d'avoir un outil juste qui puisse analyser l'image et dire que c'est l'IA ou pas. Il faudra... Ouais. S'appuyer sur un travail d'enquête, vérifier, dire dans ce contexte-là, est-ce qu'il y avait un photographe, est-ce qu'il y a vraiment telle personne ou non, parce que au-delà de ces techniques-là, ça va être compliqué de démêler le vrai du faux.
C'est-à-dire qu'en regardant l'image, on ne pourra plus dire si elle est vraie ou pas. Il faudra d'autres données pour le comprendre.
Oui, il y a une entreprise qui va arriver avec une IA de reconnaissance d'images créées par des IA. Il y a forcément un moment où... les gens vont se lancer sur ce créneau-là aussi. Il y aura des IA spécialisées de vérification des images. Ça peut remplacer les yeux d'un humain, donc pourquoi pas ?
C'est possible. Il y a déjà des outils de ce type-là. Aujourd'hui, ils ne marchent pas super, super bien. Mais alors moi, je ne connais pas le fonctionnement, mais ça me paraît compliqué de faire un outil qui y arrive à 100%, puisque les photos ressemblent à des photos. Donc, peut-être après, il y a des choses qu'on peut repérer, que l'humain ne repère pas. Il y a bien un outil qui mettait du bruit anti-IA dans les dessins des artistes, qu'on ne voyait pas du tout nous-mêmes, mais qui perturbait les modèles d'analyse pour qu'ils ne puissent pas les prendre en compte dans leur création ensuite. Donc peut-être, oui, c'est possible. Si c'est possible, ça va être fait parce que c'est absolument nécessaire. Sujet suivant. Vous savez que le combat économico-technologique fait rage entre la Chine et les États-Unis. Il y a, on en parlait la semaine dernière, une société qui a été mise en examen, mais enfin qui est étudiée par la Chine, c'est Micron, qui est un fabricant de processeurs, et on se disait, bah, c'est peut-être le début d'une réponse de la Chine aux États-Unis. Les experts qu'on voit aujourd'hui semblent dire que Micron était une cible assez évidente de la Chine pour une décision de ce type, mais qu'ils auront du mal à aller beaucoup plus loin parce que les fabricants de puces les plus importants, pas les usines, mais les fabricants, les sociétés, elles sont américaines. On parle de Nvidia, de Qualcomm, de Intel. Et la Chine a besoin de ces puces, notamment Nvidia, pour se développer dans le domaine de l'IA. Donc, il serait compliqué pour la Chine de dire, bah, on bloque les importations, par exemple, de puces Nvidia comme en tant que sanction contre les États-Unis. Ça semble, alors, d'après ce qu'ils disent, ça semble un petit peu compliqué. Moi, ça me paraît cohérent, ce qui prouve certainement que cet article a été écrit par une IA et que, en fait, on peut être sûr de rien. Mais moi, j'y crois.
Une IA chinoise, parce qu'on parle beaucoup des modèles américains, parfois des dérivés aussi de modèles européens, mais on ne sait pas vraiment ce que fait la Chine en termes d'IA. Ça se trouve, ils ont déjà la version 6 ou 7 de ChatGPT. Ça se trouve, on ne sait pas du tout. C'est une boîte noire, on ne sait pas du tout. Donc méfions-nous aussi de ce qu'ils peuvent sortir, voilà, sans forcément les stigmatiser, mais ce sera intéressant de savoir ce qui sortira de la Chine en tant que produit final, parce que finalement l'IA ce n'est que de la technique, et on regarde pas forcément ce qui se passe sous le capot, mais ce sera intéressant de voir quels produits on peut ressortir, au-delà de TikTok évidemment.
En tout cas, le concurrent de ChatGPT, enfin de Baidu, ça a fait un flop la présentation de ce que j'ai vu. C'était pas au niveau. Enfin, apparemment, ils sont vraiment dépêchés de le sortir aussi, et c'était pas, les résultats n'étaient pas au rendez-vous.
À vrai dire, bah, ils en ont tous sorti. Enfin, il y a effectivement ByteDance, Baidu. Il y en a plusieurs. Il y a Ernie de, c'est ByteDance, Ernie.
Oui.
Enfin, bref, il y en a plusieurs effectivement qui sont arrivés sur le marché. Il est clair qu'aujourd'hui, les deux les plus proéminents, c'est OpenAI. Avec notamment ChatGPT et Midjourney pour les images. Mais comme le disait Damien tout à l'heure, là, on regarde aujourd'hui, dans 1, 2, 3 ans, tout aura tellement changé qu'il est difficile de savoir où on en sera. Et a priori, même des sociétés ou des chercheurs qui sont à un niveau critiquable aujourd'hui ou pas aussi performant, je pense que d'ici pas si longtemps... C'est marrant parce que pendant très longtemps dans la tech, on disait « Ah ben dans 5 ou 10 ans, ça risque d'être comme ci ou comme ça. » Avec cette accélération de l'IA, on parle vraiment de mois maintenant. C'est assez, j'ose dire, affolant. Les choses évoluent, changent complètement d'un trimestre sur l'autre quasiment, ou d'un semestre sur l'autre. Donc oui...
Même d'un jour à l'autre, il y a des nouvelles créations tous les jours. ChatGPT de, j'ai vu hier, ChatGPT psychologue, ChatGPT pour les documents de recherche, ChatGPT pour tout.
C'est la magie de ChatGPT, mais elle permet aussi, plus on en parle, voilà, nous sommes des médias grand public, pas spécialement spécialisés, mais ce qui se passe, c'est que ça débloque aussi des financements, donc plein de projets qui n'auraient pas pu forcément sortir d'un laboratoire se retrouvent à avoir une ligne de financement inattendue. Ils peuvent du coup lancer peut-être le deuxième cycle d'un projet, et ainsi de suite. Il y a eu un tel déblocage de fonds, parce que maintenant tout le monde arrive devant les investisseurs, dit « bah moi je vais faire le ChatGPT de ça, je vais faire le ChatGPT de ça ». Franchement, je pense que ça ouvre quelque part, quoi. Je mets ça en parallèle avec il y a, en 2019, on parlait déjà de l'IA, mais c'était sur une forme un peu plus primitive, et déjà à l'époque, les gens arrivaient dans le meeting, ils disaient « moi je fais de l'IA dans ça, je fais de l'IA dans ça », et en fait l'IA c'est devenu le mot qui ouvrait toutes les portes à l'époque, et là on est reparti sur un cycle équivalent, j'ai l'impression.
Je vais aller voir des VC et leur dire que moi je fais du podcast par IA, je vais avoir des financements qui vont se débloquer, ça va être incroyable. À propos de financement, Octave Klabat a tweeté un truc intéressant. Vous savez que Octave Klabat est le fondateur de OVH, l'une des sociétés du web qui connaît le plus grand succès en France et en Europe et un petit peu dans le monde aujourd'hui. OVH, c'était à la base un hébergeur et ils se sont largement développés depuis le lancement il y a quoi, 15-20 ans. Et donc, ce qu'il dit, c'est qu'il est en discussion avec la Caisse des dépôts pour racheter Shadow France, hein, le service de streaming de PC en ligne, et Quant, le moteur de recherche français, alternative à Google que j'ai utilisé pendant longtemps. C'est vraiment une idée intéressante parce qu'il était déjà, on pense, sur le pont pour acheter Shadow quand ça n'allait pas il y a quelques années. Alors Shadow, c'est intéressant. Quant, ça allait encore plus. Klabat, et je crois le type qui... Ah pardon, Excusez-moi. Shadow, il avait déjà racheté Shadow. Bon, bah, tant mieux, ouais. Je disais, le plus intéressant, c'était pas Shadow, c'est Quant. J'avais oublié qu'ils avaient racheté Shadow. Mais pourquoi est-ce qu'il dit, en discussion exclusive, pour racheter Shadow France, c'est Quant? Ça date d'aujourd'hui, le tweet. Alors, il y a un truc que j'ai...
Il part de Shadow parce qu'il avait, il me semblait, acheté avec d'autres personnes, Shadow à l'époque.
Ça doit être ça, oui.
Ouais, une histoire d'équilibre.
Sans doute. Mais il y a aussi Quant, qui est un moteur de recherche, et Klaba a quand même vachement bien réussi dans un domaine où on est réputé être un petit peu sans démuni face aux GAFAM. Je crois qu'il y aurait un truc à faire, ne serait-ce qu'en visibilité, mais bon, j'espère que Quant a bossé sur son IA de recherche aussi, hein, parce que sinon, c'est la technologie d'il y a 15 ans. Mais why not? Moi, je dis...
C'était du Bing, quand même, si on reprend un peu l'historique de Quant, ça a été, c'était Bing. Mmh. Donc, ça se trouve, peut-être qu'ils ont la dernière version de Bing, avec une petite partie de ChatGPT, répond un peu, je ne sais pas, je ne pense pas, mais il va falloir qu'ils fassent de gros efforts. Et c'est vrai que d'intégrer une grosse structure comme OVH, ça peut leur donner les moyens, parce qu'ils déjà, ils ne dépendront plus de fournisseurs de cloud et étrangers pour pouvoir accélérer. Donc, non, ça risque de faire une belle alliance.
En tout cas, la thématique sur laquelle ils sont de protection de la vie privée, normalement, elle est censée être la thématique qui nous intéresse de plus en plus aujourd'hui. Ben, même si, dans les faits, tout le monde, la réglementation va vers davantage de protection des données, mais on dirait qu'au niveau des utilisateurs, il y a toujours un décalage entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Enfin, tout ne nous empêche pas d'utiliser les pires applications qui ne respectent pas du tout nos données, mais bon. En tout cas, normalement, ils ont un bon parti pris de départ.
Ils sont complètement focalisés sur la vie privée, effectivement. Moi je pense que la vision de Klaba, qui a réussi à naviguer dans des eaux qui n'étaient pas évidentes dans le domaine dans lequel il est, à un moment où le cloud, l'hébergement sont un petit peu trustés par d'autres acteurs, ou auraient pu l'être, eh ben, il reste quand même extrêmement important en France et en Europe. Je sais qu'il se développe aux États-Unis aussi. Et je me dis qu'il y aurait peut-être il a quelque chose là-bas, dans OVH, mais il a un truc qui comprend ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire, et peut-être qu'il pourrait développer les choses de manière plus dynamique. À voir. Ce n'est pas fait encore, hein, le rachat de Quant, en tout cas. Un truc, une tendance qu'on note tous, mais dont je me demande si elle ne va pas se pérenniser avec l'annonce de fonctionnalités supplémentaires pour YouTube Premium. YouTube Premium, vous savez, c'est l'offre à 10 euros à peu près de YouTube qui vous donne le contenu sans pub et d'autres avantages. Alors, en l'occurrence, ça sera une meilleure qualité sur les vidéos streamées, le support de SharePlay sur iOS, ce genre de choses. À la limite, peu importe. Je me demande, moi, en parallèle de cette news, si le modèle freemium n'est pas un petit peu en train de se démocratiser partout. Alors, au-delà de la discussion sur Twitter Blue et Instagram, je ne sais plus comment il s'appelle, Instagram payant et Facebook payant, etc., on a quand même des paywalls qui sont un petit peu partout sur les sites de presse. On a des gens qui proposent des choses gratuites avec des trucs en plus si on paye, par exemple le rendez-vous tech. Le modèle est un petit peu en train de s'universaliser, de se pérenniser. Est-ce que, alors on va se passer en mode télévision grand public, est-ce que Leïla Marchand, le modèle freemium est en train de devenir indétournable, inévitable? Dites-moi tout.
C'est vrai que jusqu'ici, les géants type Facebook ont fait leur succès avec un modèle gratuit, mais après le modèle freemium a aussi toujours existé. C'est le deuxième modèle le plus répandu, je pense. Sur le web, est-ce que c'est ça par exemple pour les fournisseurs de logiciels, ça a souvent été le type de modèle utilisé, par exemple au Spotify, LinkedIn aussi, je crois, depuis le départ, si je ne me trompe pas. Mm-hmm. Peut-être qu'on est en train de ne plus être dans un modèle où... Enfin, est-ce que si c'est plus gratuit, on n'est plus le produit sur Internet, mais... Est-ce qu'on est en train d'aller vers davantage un modèle freemium? C'est possible, je ne saurais pas dire. Ah,
en fait, j'ai l'impression, peut-être, tu as raison, c'est vrai qu'il existe depuis longtemps et un petit peu partout. Peut-être que je devrais repenser ma pensée. En fait, beaucoup de services qui étaient disponibles uniquement gratuitement sont en train d'installer une option payante. Et alors, c'est une transformation qui a commencé il y a un moment. Hein. Je parlais des paywalls sur les sites de presse et des abonnements. Ça n'a pas commencé hier, ouais. Mais ce n'était pas comme ça au départ non plus. Ça fait 4-5 ans. Mais donc, oui, pour reformuler, c'est peut-être, il est peut-être plus juste de dire qu'on commence à avoir des options payantes aussi sur tous les services ou les publications qui étaient gratuites avant.
Oui, en tout cas, côté public, c'est vrai qu'on est aujourd'hui davantage prêt psychologiquement à aller payer quelque chose sur Internet. Et en face, l'écosystème se structure et on s'aperçoit qu'on a besoin de budget aussi pour faire des choses de qualité. Donc, on est obligé parfois de passer par ce type de modèle. Donc, peut-être que oui, ça va davantage se généraliser. Après, il y a toujours une barrière psychologique, je trouve, pour certains services. Enfin, par exemple, moi, je ne suis toujours pas prête à payer sur YouTube parce que j'ai toujours YouTube gratuit et je refuse d'avoir un abonnement supplémentaire à une nouvelle chose. Mais,
tu sais, je paye pour YouTube depuis quelques années maintenant. Quand je vais sur YouTube sans être connecté à mon compte, l'apparition des pubs me c'est genre, bon, je suis un gros consommateur de YouTube aussi, donc ça joue, mais c'est insupportable. Vraiment.
Ouais, ils font tout pour rendre l'expérience horrible.
En fait, on se rend compte que ce qu'on est en train de vivre, c'est le retour à la vie avant Internet. Parce que avant Internet, tous les services étaient. Enfin, alors, ce n'était pas l'option de payer, mais il y avait un paiement, tous les services. Peut-être pas la télé. La télé, c'est. Si, il y avait des télés payantes aussi. Les magazines, tu payais ton magazine et tu avais de la pub dedans. C'est peut-être le meilleur exemple de ce que j'essaye de dire. C'était déjà du hybride. Pas du freemium, mais du hybride. On ne pouvait pas avoir le magazine gratuitement avec le double pub. Ça ne fonctionnait pas tout à fait.
Il y a quand même 15 ans, au minimum, pendant lesquels les gens n'ont pas payé, ils sont habitués à la gratuité. On a le même problème en tant que média, on le connaît très bien, ce problème-là de conversion vers du payant. C'est extrêmement difficile, donc il faut mettre beaucoup de choses dans la balance. Et parfois, une ou deux fonctionnalités, ça ne suffit pas. Donc il faut que ça soit vraiment une liste de fonctionnalités pour convaincre de sortir la CB.
C'est vrai, oui, c'est sûr. Je pense que pour YouTube, moi, je suis le client. Mais on va pas payer pour tout, mais on paye pour les trucs qu'on utilise le plus, et puis les autres, on peut les utiliser gratuitement avec ses inconvénients. Je pense que c'est un bon modèle. Moi, je pense que ça fonctionne, ce genre d'idée.
C'est un modèle qui a été en place pour des centaines de jeux, et je pense que les GAFAM regardent aussi les d'autres sociétés qui peuvent être cotées en bourse comme eux et qui disent ils arrivent à sortir beaucoup plus de rentabilité avec un jeu où voilà, sans citer des noms, c'est quand même pas très évolué, mais avec des options freemium, ils arrivent à sortir énormément d'argent de concepts et de petits logiciels qui ne coûtent pas grand chose à faire, donc pourquoi pas eux finalement.
Le système
des aujourd'hui, jeux... le monde de la publicité est en plein ralentissement, donc ils cherchent peut-être aussi à avoir d'autres sources de revenus que la publicité, parce que le modèle de Google ou Facebook, c'est la pub. Ça, c'est bouleversé.
C'est sûr, c'est sûr. Bon, espérons qu'ils ne se mettent pas à faire comme les jeux mobiles où il faut payer, mais sur le moment, pour avoir le truc en plus. Au moins un abonnement par mois, ça va, mais genre, ah! Vous avez regardé 3 vidéos sans pub. Voulez-vous rajouter re-remplir votre dose d'énergie anti-pubovore pour seulement 4,99 €? Vous pouvez avoir 4 heures sans pub en plus. Ça ne serait pas impossible. Et on nous dit également dans la chat...
Patrick.
Oui, pardon ?
Tu dis qu'il faut bien payer, malheureusement, Patrick, à un moment, tu dois bien savoir, toi. Ta page Patreon aussi, voilà, à un moment... Ah, il ne peut pas être gratuit, malheureusement.
Un nouveau système alimenté par...
Les abonnés payants Twitter, ils ont encore une partie de publicité, je crois.
Complètement, ouais. Ils ont la moitié de pubs en moins, mais ils en ont quand même. C'est pour ça que souvent, on dit « Oh, regarde, les pubs... » Les gens qui n'ont plus de pubs en s'abonnant, bah, ils ont quand même des pubs. Moi, je pense que pour le podcast gratuit, ça va, on fait des émissions d'une heure, une heure et demie. On a allez, une coupure pub au début, une au milieu, une à la fin. Je pense que ça va. Mais peut-être qu'on pourrait faire un bon système alimenté par IA qui analyse en fonction de toutes les données qu'il a sur vous la quantité de pubs que vous pouvez supporter avant de ne plus écouter l'émission pour en mettre le maximum pour vous pousser à devenir patriote. Alors, je rigole. Je rigole.
RGPD compatible, tout ça.
Oui, c'est bon, peut-être uniquement en sachant, tu sais, des données non personnelles, genre. Combien de temps tu utilises ? Je ne sais pas. Bon, on verra avec un avocat comment on peut le mettre en place. Non, je plaisante, évidemment. Mais moi, je plaisante. Mais je suis convaincu que ça va arriver aussi. Le fait de pousser autant de pubs que possible, peut-être, bon, peut-être par IA. Comme le disait Damien, c'est tout est par IA maintenant. Je vous fais votre milkshake, il est fait par IA. Ah, super, je vais le payer le double. Bon. Quoi d'autre ? Ah oui, il y a un article que j'ai trouvé super intéressant sur Rest of World. Je vous encourage à aller consulter ce site web si vous ne le faites pas déjà. Rest of World, c'est un site qui parle de ce qui se passe dans d'autres pays du monde dont on ne parle pas souvent. Et en l'occurrence, il y avait un article sur les soundbox, les soundboxes. Est-ce que vous savez ce que c'est que les soundbox ? Je sais que vous ne savez pas, donc, mais je pose la question quand même.
Effectivement.
Pas du tout.
Non, je ne sais pas non plus.
Alors, les soundbox, moi, je ne savais pas jusqu'à ce que je lise l'article, donc voilà. C'est des petites boîtes qui font du son, le nom, voilà. Vous n'avez pas compris ? Non, des petites boîtes qui, en fait, annoncent avec la voix qu'un paiement a été effectué, a été validé et qui est utilisé, qui est fabriqué par les services de paiement qui sont beaucoup utilisés, notamment en Inde. Alors, on parle de Paytm et de d'autres... sociétés de ce type, PhonePay, MobiQuick, etc., qui donc annoncent vocalement, avec une voix, en anglais, hein, avec l'accent indien, puisque c'est en Inde, en fait, donc l'accent normal de sur place, que le paiement a été effectué. Et du coup, ça permet aux gens qui vendent leurs produits, beaucoup de vendeurs dans la rue, qui vendent des fruits et des légumes, d'utiliser ces moyens de paiement parce qu'eux-mêmes sont souvent incapables de lire ou d'écrire, ils sont analphabètes, et ils ont du coup un moyen qui permet de remplacer les paiements par cash, qui était facile à utiliser, mais ils étaient bloqués par les moyens de paiement. Il y a un témoignage qui est assez éloquent, où la personne en question disait avant, c'est qu'on ait ces petites boîtes. Pour préciser, donc la boîte, il y a le paiement qui est fait par mobile, donc le client paye, et la boîte dit simplement « paiement de temps validé ». Voilà, je vais peut-être essayer de vous retrouver. Attendez, on va faire « hop », vous devriez pouvoir entendre ce que ça donne. «
Received Paytm payment of rupees 1,800 ».
Voilà, c'est juste ça. C'est une petite boîte qui dit que vous avez reçu un paiement de 1100 rupees et quand le paiement a été effectué par mobile. Et ce qu'il devait faire avant, ce vendeur, c'était prendre un paiement mobile, téléphoner à son fils qui était à la maison. Le fils lui confirmait que le paiement avait été fait parce qu'il regardait sur ordinateur. Et ensuite, il pouvait laisser partir le client avec ce qu'il avait acheté. Et donc, c'est tout con, hein. On est loin de l'IA, on est loin des caprices d'Elon Musk, on est loin de tout ça. Mais c'est un truc hyper simple qui permet à ces vendeurs de continuer à travailler parce que les paiements sont de plus en plus mobiles et ils ne pouvaient simplement pas accepter ces paiements avant où c'était très compliqué puisqu'ils ne pouvaient pas lire la confirmation. Donc, l'article sera dans les notes de l'émission, mais j'ai trouvé ça assez... ça nous permet de prendre un petit peu de recul sur les questions tech, parce que des choses vraiment importantes pour permettre aux gens de travailler, bah, c'est aussi ce genre de petits trucs. Voilà, maintenant vous saurez ce que sont les soundbox.
Merci.
Et le pire, c'est que je suis convaincu qu'il y a... évidemment, ça nous concerne moins parce qu'on n'est pas dans ces configurations et dans ces pays, mais il y a des tonnes d'outils de ce type-là qui sont très loin de nos préoccupations à nous et qui changent véritablement la manière dont fonctionnent les vies et le commerce dans d'autres pays qui nous passent complètement au-dessus, quoi. Et enfin, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de crypto-monnaie. Alors, crypto-monnaie, c'est fini ou c'est pas fini ? Decentraland, qui réunit les deux trucs les plus populaires de ce monde-là, c'est-à-dire le métavers et les crypto-monnaies, c'est en fait un univers virtuel dans lequel on peut acheter des zones, des parties de terrain en NFT et donc en crypto. Ils ont eu leur, leur sorte de Fashion Week cette année et il y avait une présence qui a diminué de 76% dans Decentraland. Alors, on pourrait se dire, ah ben voilà, ça y est, métavers et crypto, ah ah ah, c'est terminé, ça nous fait bien rire, c'est fini. Eh bien, dans le même temps, l'Ethereum a gagné, est remonté à 1 900 $ par ETH, monté de 6% ces derniers 6 jours, et même le Bitcoin est remonté au-dessus de 30 000 $, qui est le plus haut niveau depuis presque un an. Et bon, ça reste bien en dessous de du début du crypto winter en novembre 2021. C'était le moment où il était le plus haut. Mais du coup, j'arrive pas à savoir si les crypto-monnaies, les NFT et tous ces trucs, c'est vraiment fini, ou si c'est vraiment l'hiver crypto et que ça va finir par passer. Évidemment, comme vous êtes, vous avez une puissance divinatoire tous les deux, fonction de votre expertise et de votre sérieux. Je vous ai dit que vous alliez, j'allais pas vous ménager aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire si les cryptos c'est vraiment fini ou pas ? Attention, on réécoutera cet épisode dans quelques années pour savoir si vous êtes planté ou pas.
Alors, je vais sortir ma boule de Madame Irma, mais je pense qu'il y a eu une espèce aussi de moment de doute, mais qui est lié aussi à la frénésie qu'il y a pu avoir en sortie de pandémie. Et les gens ont acheté tout et n'importe quoi, ils ont investi beaucoup d'argent gratuit. Du coup, ça fait gonfler pas mal de choses. Et c'est vrai que le métavers, c'est une victime collatérale de cet engouement, parce qu'il avait peut-être pas vocation, il était peut-être pas suffisamment mature pour sortir, et il en a déçu du coup plein de gens, typiquement Decentraland ou Sandbox, c'était quand même des environnements qui n'avaient pas vocation à accueillir des millions et des millions de personnes pour l'instant, mais dans quelques années ce sera le cas. Mais peut-être qu'on les a fait grossir un peu trop vite et un peu mal, c'est parti un peu dans tous les sens. Le problème, c'est quand il y a trop d'argent, et c'est peut-être qu'on a le même problème avec l'IA, ça va partir dans tous les sens, c'est qu'on peut se permettre de financer des projets un petit peu plus fantasques, voilà, et que parfois il y a un petit retour de flamme à la fin.
Donc pour toi, j'ai l'impression que tu dis c'est ça risque de reprendre quand même à un moment, ça nettoie, et puis on verra ce que ça donne ensuite.
Il faut prendre ça comme une technologie, il faut prendre ça comme l'e-commerce il y a 15 ans, on se dit je fais mes courses sur Internet. Maintenant, quand on commande quelque chose sur une application de livraison de repas ou sur une célèbre plateforme de commande en ligne de tous les produits n'importe quoi, on dit pas je fais du e-shopping, on dit je fais du e-shopping.
Du e-shopping. Effectivement, oui, c'est bien illustré. Leïla, tu...
je précise quand même que je suis pas tellement le secteur des crypto-monnaies et le métaverse et la NFT, c'est pas ma spécialité. Après, de ce que j'ai pu lire et voir personnellement, j'ai l'impression qu'en tout cas, pour ce qui est de Decentraland, j'ai l'impression qu'ils ont complètement négligé le contenu. C'est un mauvais jeu vidéo, en fait, on pourrait dire, parce qu'il n'y a rien à y faire et que c'est juste de la spéculation immobilière. Mais que sur le sujet des NFT, des cryptos, du métaverse, dans certains secteurs, ça a l'air quand même de bien marcher. Enfin, ils ont bien adopté ces technologies-là, par exemple dans le luxe. Il y a de plus en plus de produits qui sont associés à des NFT ou à de la crypto, permettre une expérience particulière, et j'ai l'impression que ça leur réussit quand même. Enfin, en tout cas, de côté, leur Fashion Week là n'a pas eu de succès, mais il y a quand même eu un certain nombre de personnes à y assister, et j'ai l'impression que ça se pérennise. Mais après, je sais pas. Ma boule de cristal est très fiable.
Bon, moi, ce que je dirais simplement en conclusion, c'est que j'ai beaucoup plus confiance dans l'avenir et l'utilité de l'IA que dans tout ce dont on vient de parler maintenant. Je m'engage pas trop. Je reste prudent quand même.
Pas encore l'IA dans le métavers, c'est pour ça.
Eh oui, non mais c'est ça. C'est ça qui va tout changer en fait. Super. Bah, merci à tous les deux. Je crois qu'on arrive à la fin de cet épisode du Rendez-vous Tech. Quel moment agréable et instructif passé en votre compagnie. Si on veut plus d'agréments et d'instructions, est-ce qu'on peut vous retrouver quelque part sur Internet? Commençons avec Leïla. où es-tu quand tu ne passes pas ton temps à nous informer dans le rendez-vous tech?
Eh bien, je suis sur Twitter, / xapp, / Shiba Inu app.
J'ai pas compris tout de suite, je me suis dit, attends, c'est son pseudo, c'est pas Leila M sur Twitter?
Non, je suis sur Twitter, mais voilà, en gros. Et puis, j'écris dans les échos, du coup, et puis voilà, c'est à peu près tout.
Dans les échos et sur Twitter, on mettra le lien vers le compte Twitter dans les notes de l'émission, évidemment. Merci beaucoup, Leila, d'avoir été avec nous. Damien, où es-tu sur Internet?
Vous pouvez me retrouver, me suivre sur Twitter, évidemment, @DamienLicata. Et demain, vous allez pouvoir lire tout ce que j'ai pensé de cet excellent fromage créé par IA dans Le Parisien, dans la rubrique high-tech du site Internet du Parisien et dans l'application, évidemment.
Magnifique, donc Le Parisien et Damien Licata sur Twitter. Là encore, le lien vers ton compte sera dans les notes de l'émission. On n'arrive pas à s'en départir, hein. Enfin, on n'arrive pas, on ne veut peut-être pas. Mais mine de rien, je ne sais plus si je l'avais dit tout à l'heure, mais je crois qu'une alternative à Twitter, ça va être très, très, très difficile à construire, à moins que vraiment le site n'explose. Parce que la réalité, c'est qu'aucune société saine d'esprit ne veut se mettre à dos les prises de... enfin, se prendre sur son dos les prises de tête que représente Twitter. Ça rapporte pas d'argent, déjà. Ça n'a jamais vraiment rapporté d'argent, Twitter. Et en plus, c'est la garantie d'avoir des prises de tête permanentes à tous les niveaux, pour la désinformation, pour la modération, pour l'influence que te prête tel ou tel, pour l'ingérence des États, enfin, comment gérer les interdictions, les lois dans tel État. Personne ne veut cette prise de tête.
Ça concentre tous les problèmes d'Internet, et ça n'en résout aucun, et ça ne fait qu'alimenter des polémiques. Donc, c'est vraiment un jeu à somme nulle, hein, ouais. Beaucoup à Twitter.
En tout cas, là non plus, je ne sortirai pas ma boule de cristal pour dire est-ce que Elon Musk peut réussir ou pas sur le long terme. Parce qu'on avait aussi dit qu'il se casserait la gueule avec, dans les voitures électriques et dans les fusées. Mine de rien, ça a l'air de fonctionner. Donc, est-ce que là, sur le long terme, est-ce qu'il arrivera en tout cas à redresser financièrement Twitter et à en faire quelque chose de nouveau, je ne me risquerais pas à répondre à cette question.
J'avoue que malgré tout le désamour que j'ai pour la manière dont il fait les choses aujourd'hui avec Twitter, je suis quand même sur ta ligne. Il peut tout à fait réussir son coup malgré tout ça, quel que soit le chemin que ça prend en ce moment. Ce n'est pas dur à changer, à redresser Twitter.
Mais, oui, c'est possible.
On verra. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter. Voilà, il est partout. Twitter, Facebook, Instagram, Mastodon, NotePatrick @mastodon.social. Vous pouvez me retrouver là-bas aussi. Et vous pouvez retrouver tous les liens vers tout ce qu'on fait sur NotePatrick.com, notamment le Discord. Je vous disais que je vais parler un petit peu d'IA en pratique dans l'after show. Eh bien, l'un des outils qu'on utilise, l'un des endroits où on explore l'IA tous ensemble, c'est sur le Discord. Donc, si vous voulez voir, juste observer un petit peu, il y a des channels spéciaux. Pour ça, vous pouvez rejoindre le Discord. On est plein, on s'amuse bien, c'est des gens sympas, c'est pas comme Twitter. Et donc, le lien est sur notepatrick.com ou même dans les notes de l'émission, tout simplement. Et également, on est sur Twitch tous les mardis midi pour le rendez-vous tech et tous les jeudis midi pour le rendez-vous jeu. C'est un bon moment passé en votre compagnie également, puisque la chatroom anime ce moment de leurs commentaires avisés et extrêmement intéressant. Donc tout ça, c'est dans les liens de l'émission Discord, Twitch et bien sûr, oui, vous le voyez venir, patreon.com/rdvtech. Le plus important, jusqu'à ce que je puisse externaliser l'émission à une IA, eh ben, il faut encore des sous-sous pour la faire fonctionner. Et vous pouvez contribuer à cette vie, par patreon.com/rdvtech. Le lien est également dans les notes de l'émission. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Pour les patriotes, on continue avec l'after show. Et pour tous les autres, on se donne rendez-vous dans une semaine. Ciao, ciao, bisous.